le dictaphone. Très bien. On m'a chargé de demander à Eri et à une deuxième personne de prendre des notes. Parce que dimanche prochain, voilà. Dimanche prochain, vous aurez à résumer la prédication à vos jeunes frères du caté. Voilà, bonjour à tous. En fait, on est le premier dimanche du mois et on continue l'étude de notre thème de l'année. On étudie donc ces dimanches le sermon sur la montagne, l'évangile selon Matthieu. Et le thème de l'année, c'est vous êtes le
sel.
Et vous êtes la Amen. Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde, dit Jésus à ses disciples. Que votre lumière, brille devant les hommes. Matthieu chapitre 5, verset 16. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant les hommes pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Dieu, à votre Père céleste. Que notre lumière brille devant les hommes, nous dit Jésus. Si nous sommes la lumière du monde, par la grâce de Dieu, si je comprends bien ce verset qu'on a lu, ça doit se voir. Et la gloire doit être rendu à notre Père Céleste, c'est-à-dire Dieu. Et Jésus, de poursuivre son enseignement en expliquant que ses disciples doivent être parfaits, comme leur Père Céleste est parfait. Jésus, on l'a vu ces deux derniers dimanches, explique mieux la loi, qui souvent avait été mal interprétée ou mal appliquée. Jésus la replace à l'endroit, la remet à l'endroit et conduit ses disciples à ne pas simplement obéir à la lettre, mais à aspirer à la perfection afin de ressembler à leur Père céleste. On a vu donc dans ce chapitre 5 toute cette étude, tous ces commentaires que Jésus fait des commandements de la loi. Il vous a été dit. Mais moi, je vous dis, vous vous rappelez hein, de tout ce qui a été dit ces deux dimanches. Aujourd'hui, nous abordons le chapitre 6 et on lira les versets 1 à 18. Matthieu chapitre 6, versets 1 à 18. Je vais lire dans la version du semeur. Matthieu chapitre 6, verset 1. Gardez-vous d'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer par eux ce que vous faites pour obéir à Dieu. Sinon, vous n'aurez pas de récompense de votre Père céleste. Ainsi, lorsque tu donnes quelque chose aux pauvres, ne le claironne pas partout. Ce sont les hypocrites qui agissent ainsi dans les synagogues et dans les rues pour que les gens chantent leurs louanges. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Mais toi, quand tu donnes quelque chose aux pauvres, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Que ton aumône se fasse ainsi en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Quand vous priez, n'imitez pas ces hypocrites qui aiment à faire leurs prières debout dans les synagogues et à l'angle des rues. Ils tiennent à être remarqués par tout le monde. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçu. Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Dans vos prières, ne rabâchez pas des tas de paroles à la manière des païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, Dieu les entendra. Ne les imitez pas, car votre Père sait ce qu'il vous faut avant que vous le lui demandiez. Priez donc ainsi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous aussi nous pardonnons les torts des autres envers nous. Ne nous expose pas à la tentation et surtout, délivre-nous du diable. Car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire à jamais. En effet, si vous pardonnez aux autres leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Lorsque vous jeûnez, n'ayez pas comme les hypocrites une mine triste pour bien montrer aux gens. Oui, voilà, pour bien montrer aux gens qu'ils jeûnent, ils prennent des visages défaits. Pardon. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Verset 17. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume tes cheveux et lave ton visage pour que personne ne se rende compte que tu es en train de jeûner, sauf ton Père céleste qui est là dans le lieu secret. Alors ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen, la parole de Dieu. Gardez-vous d'accomplir, verset 1, devant les hommes, pour vous faire remarquer par eux ce que vous faites pour obéir à Dieu. Ou dans d'autres traductions, gardez-vous d'accomplir votre justice, de pratiquer votre justice dans le but d'être vu par les hommes. Sinon, vous n'aurez pas de récompense de votre Père céleste. Jésus là pose le thème, le principe de ce qu'il va détailler à travers trois exemples. L'aumône, le don aux pauvres, la prière et le jeûne. L'aumône, la prière et le jeûne étaient ce qu'on pourrait appeler des actes religieux, des actes de piété, des choses qu'on faisait ponctuellement ou régulièrement. Pour Dieu, des choses qu'on faisait pour Dieu. Et là, Jésus est en train de leur expliquer que il ne faut pas, comme les hypocrites, faire croire que c'est pour Dieu, alors qu'en réalité, on le fait pour être vu par les hommes, pour être remarqué par les hommes. Jésus, là aussi, continue sur sa lancée pour remettre à leur vraie place l'aumône, la prière et le jeûne. Je veux faire remarquer que Jésus a commencé par expliquer la loi sur des choses pratiques de la vie quotidienne. Ne convoite pas, n'insulte pas, ne tue pas, ne jure pas, comme on l'a vu. Et ensuite, il parle de l'aumône, de la prière, du jeûne. Comme j'ai dit, qui sont des actes ponctuels. Mais je me suis dit, pourquoi Jésus fait les choses dans cet ordre-là? Parce que l'un ne va pas sans l'autre. Une vie d'aumône, une vie de prière, une vie de jeûne, tout cela ne sert à rien. Si dans la marche quotidienne avec Dieu, nous passons à côté de la justice que Dieu attend. La justice que Dieu attend, c'est que nous obéissions à ses commandements chaque jour de nos vies. Chaque jour de nos vies. Pratiquez votre justice, non pas pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu. Le premier point sur lequel Jésus insiste, c'est la condamnation de l'hypocrisie religieuse. Il le dit à plusieurs reprises, hein, verset 2. « Ainsi, lorsque tu donnes quelque chose aux pauvres, ne le claironne pas partout. Ce sont les hypocrites qui agissent ainsi, dans les synagogues et dans les rues. » Pardon, verset 2. « Ainsi, lorsque tu donnes quelque chose aux pauvres, ne le claironne pas partout. Ce sont les hypocrites qui agissent ainsi, oui, dans les synagogues et dans les rues, pour que les gens chantent leur Louange. Verset 5. Quand vous priez, n'imitez pas ces hypocrites. Encore le même mot. Qui aiment à faire leurs prières debout dans les synagogues et à l'angle des rues. Pourquoi? Ils tiennent à être remarqués ou vus par tout le monde. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Verset 16. Lorsque vous jeûnez, n'ayez pas comme les hypocrites une mine triste. Pour bien montrer aux gens qu'ils jeûnent, ils prennent des visages défaits. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Jésus condamne là les hypocrites, l'hypocrisie, et invite ses disciples à ne pas faire de même. Qu'est-ce qu'il condamne exactement? L'aumône? Non. La prière? Non plus. Le jeûne? Non. Il condamne les motivations derrière ces actes dits religieux. La motivation des hypocrites, en réalité, c'est d'être vu. Mais être vu pour quoi? Pour recevoir des hommes la gloire, la louange, afin qu'on dise, oh là là, dis donc, lui alors, lui jeûne beaucoup, ça alors, ah là là, à lui prie tellement là devant tout le monde, ah, alléluia, gloire à Dieu, waouh, ça c'est un chrétien de tonnerre. Alors là, lui, je t'ai dit, tous les mois, il donne aux pauvres, on le voit à chaque fois. Si tu veux le voir, viens tel jour, à telle heure, tu vas voir, il y a des pauvres qui s'assemblent là, et il est le seul à distribuer ses biens. Oh là là. Et on pourrait penser que c'est ainsi que notre lumière brille devant les hommes. Et Jésus dit non, absolument pas. Ceux-là le font pour recevoir la gloire des hommes. Et je vous le dis, ils ont déjà eu leur récompense. Effectivement, ça paye. Par rapport au but affiché, c'est efficace. Si mon but, c'est d'avoir les éloges, les appréciations des hommes, alors c'est ça qu'il faut faire, en effet. Claironner partout. Oui, je vais donner un pauvre. Oui, je vais jeûner demain à 16h. Attention, tu vas voir, j'aurai les cheveux comme ça. Je vais sentir mauvais et tout. Je te préviens d'avance, je jeûne. Ça fait sourire. Mais Jésus, là, nous interpelle aussi. Est-ce que nous aussi, quelque part, on n'a pas cela qui brûle en nous quand on fait quelque chose de bien? Ça brûle au fond de nous que des gens autour de nous le sachent. Tu vas peut-être pas venir le dire, mais tu vas faire en sorte qu'on te pose la question pour pouvoir dire, ah oui, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Jésus les traite d'hypocrites. Parce que ce qu'ils font, en réalité, ils ne le font pas pour Dieu. Ils le font pour eux-mêmes. Ils reçoivent la gloire des hommes. Et donc, c'est tout. Au lieu de cette hypocrisie, Jésus nous invite à nourrir, à alimenter une intimité, une relation intime avec Dieu. Il le dit à plusieurs reprises, fais-le dans le lieu secret. Que ta main droite ne sache pas. Ou plutôt que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Si tu veux prier, retire-toi dans le lieu secret. Si tu veux jeûner, retire-toi dans le lieu secret. La motivation du chrétien à travers l'aumône, la prière, le jeûne, sa vraie motivation doit être la rencontre personnelle et intime avec son Dieu. Le chrétien doit faire toute chose pour Dieu, par Dieu, avec Dieu. Si tu pries, enferme-toi dans ta chambre, dans le lieu secret, et prie. Si tu jeûnes, fais-le en secret. Si tu donnes une aumône, fais-le en secret. Même que ta main ne sache pas ce que l'autre main fasse. C'est-à-dire, ne cherche même pas à conserver cette aumône que tu as faite dans le cœur pour t'en satisfaire toi-même. C'est une manière de dire, mais si tu peux, oublie ce que tu as fait. Que toi-même, tu oublies ce que tu as fait. Parce que ce qui t'importe, c'est que ce soit fait devant Dieu. Et que Dieu s'en réjouisse. Et que à Dieu seul soit la gloire. Jésus nous invite à une intimité avec Dieu. Voyez, c'est dans ce tête-à-tête. C'est dans cette proximité. C'est dans cette intimité avec Dieu que la lumière de Dieu, en effet, brille en nous. J'en donne pour exemple Moïse, qui était monté sur la montagne. Vous vous rappelez, quand il descend de la montagne, qu'est-ce qui se passe? Les gens n'arrivent même pas à regarder son visage, parce que son visage brille, il est éclatant. Pour avoir en nous cette lumière de Dieu qui brille et qui doit certes briller devant les hommes, pour la voir en nous, pour la développer, pour la faire grandir, il faut avoir une vie intime avec Dieu. C'est très important. Et Jésus insiste là-dessus. Non pas l'hypocrisie, ne recherchez pas la gloire des hommes. Mais recherchez toutes choses en Dieu, devant Dieu, avec Dieu. Et Dieu fera toutes choses. C'est lui qui nous demande de briller devant les hommes. C'est bien lui. Pourtant, c'est le même qui nous demande de prier en secret, de jeûner en secret. Alors nous, on peut se dire, tiens, mais ce n'est pas cohérent. Si, c'est extrêmement cohérent. Parce que c'est en voulant plaire aux hommes, en voulant plaire au monde, que la lumière du chrétien s'éteint. On passe à côté du but qu'on pense atteindre. La vie chrétienne, la vraie vie chrétienne, est celle qui s'appuie sur une relation intime avec Dieu, sur la conscience que Dieu est là, présent dans ma vie chaque jour, qu'il me voit, qu'il m'entend, qu'il m'encourage, qu'il m'accompagne et que je peux m'adresser à lui, que je dois m'adresser à lui pour toute chose. L'intimité avec Dieu. Et Jésus le dit à plusieurs reprises, ton Père qui est dans le lieu secret te le rendra. Il le dit au verset, à la fin du verset 4, voilà, que ton aumône se fasse ainsi en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. À la fin du verset 6, ton Père qui voit dans le secret te le... À la fin du verset 18, alors ton Père qui voit dans le secret te le... Un peu comme un refrain. Te le rendra. Je sais qu'il y a des chrétiens très spirituels qui n'aiment pas trop cette idée de récompense. Parce qu'au fond, on pourrait se dire, oui, mais je fais mon aumône dans le secret. Je jeûne dans le secret, je prie dans le secret. Mais au fond, ce qui m'intéresse, c'est que Dieu va me récompenser. À ça, je sais qu'il va me récompenser. Je le fais, mais j'attends sa récompense. Je le fais pour sa récompense. Et donc, beaucoup sont un petit peu choqués par ça, en disant, mais finalement, ce n'est pas si désintéressé. Puisque, en fait, le chrétien le fait dans une espèce de calcul pour obtenir la récompense de Dieu. Il me semble que il faut laisser la Bible nous parler. Il ne faut pas chercher à calquer nos raisonnements des hommes, justement, dans la parole de Dieu. C'est Jésus qui parle. Et il me semble que là, c'est très clair dans ce qu'il dit à trois reprises. Ton Père te le rendra. Je n'ai pas à être choqué par le fait que Dieu récompensera les bienfaits. je n'ai pas à être choqué par le fait que Dieu va récompenser, vraiment, je dirais, les efforts du chrétien. Mais quels efforts? Ce n'est pas des efforts pour acheter l'amour de Dieu. C'est que, en fait, il faut le voir comme une relation d'amour. Ce n'est pas les cadeaux qui achètent l'amour. L'amour ne s'achète pas. Mais là où l'amour est, il y aura des cadeaux. Et pourquoi pas? L'amour précède les cadeaux. Jésus, dans les béatitudes, commence par cette béatitude qu'on a méditée hier dans le groupe de quartier. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. C'est pas sera. Non, c'est présent. Il est déjà à eux. Jésus vient annoncer une bonne nouvelle. Ce royaume vous est donné. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est les pauvres en esprit. Ils ne peuvent pas l'acheter. On ne peut rien acheter. Cependant, là où il y a l'amour, les cadeaux de Dieu sont là aussi. Ils ne sont pas là pour acheter l'amour. Ils sont là aussi pour accompagner l'amour de Dieu. Aussi, les récompenses, Jésus en parle à plusieurs reprises. Par exemple, je crois que c'est le chapitre 25 de Matthieu, où il dit « Chaque fois que vous avez visité des prisonniers, que vous avez donné un vêtement, et tout ça, ben, en fait, c'était à moi. C'était à moi que vous le faisiez. » Ne soyons pas donc scandalisés par les récompenses que Jésus nous promet. Elles sont réelles. Et cela devrait d'ailleurs être aussi une motivation du chrétien pour nous encourager à tenir ferme dans la foi, afin qu'au jour de son retour, il puisse dire « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Le chrétien attend les récompenses de son Seigneur. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Voilà donc comment Jésus replace les choses dans le bon ordre. Briller devant les hommes pour qu'ils voient la gloire de Dieu, oui. Mais tel ne doit pas être notre but d'emblée. Le meilleur moyen d'y arriver, c'est d'avoir une intimité avec notre Seigneur. Amen. Amen. Jésus va prendre le temps sur la prière. Et j'aimerais, pour la fin de la prédication, dire quelques mots sur la prière du Notre Père. Toute la vie chrétienne, nous apprend la Bible, doit être baignée dans la prière. La prière est un moyen par excellence pour communiquer avec notre Seigneur. Et Jésus nous met en garde. Premier point, ne cherche pas à prier pour te faire voir. Donc là, c'est l'hypocrisie. Mais deuxième point, verset 7, ne rabâchez pas des tas de paroles, bla 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 bla, à la manière des païens qui croient, qui s'imaginent qu'à force de paroles, Dieu les entendra. Ce n'est pas non plus comme ça qu'il faut prier. En pensant qu'on peut forcer la main de Dieu à force de parole, et que Dieu va finir par céder. Non. Et Jésus de dire, ne les imitez pas, ça ne sert à rien, puisque votre Père sait d'avance ce qu'il vous faut avant que vous lui demandiez. Mais comment devons-nous prier? Et Jésus de poursuivre, priez donc ainsi. Et nous connaissons cette célèbre prière du Notre Père. Nous n'aurons pas le temps de la commenter en détail, tellement cette prière est riche. J'aimerais juste mettre l'accent sur quatre petits points. Quand on aborde ce modèle de prière que Jésus donne, le premier point qui nous marque, c'est Notre Père. Priez donc ainsi, Notre Père qui es aux cieux. Qui peut s'adresser à Dieu en disant « Mon Père » ? Qui peut appeler Dieu « Mon Père » ? Visiblement, ce n'est pas tout le monde. Parce que dans l'évangile selon Jean, Jésus dit à des pharisiens « Vous, Vous avez pour père le diable. Donc, mais dis-donc, mais qui est le fils de Dieu? Qui peut s'adresser à Dieu comme mon père, notre père? Et nous comprenons que c'est ce que la suite de l'évangile nous révèle aussi très clairement. C'est en Jésus-Christ que nous devenons enfants de Dieu. C'est un privilège énorme de pouvoir commencer sa prière avec l'esprit, avec l'assurance que je m'adresse à mon Père. C'est en Jésus que nous sommes adoptés dans la famille de Dieu. Et Dieu ne renie jamais ses enfants. Peut-être que on ne se rend pas compte du privilège que c'est. Mais priez donc ainsi. Dites notre Père. C'est énorme. Et c'est Jésus qui paye le prix pour que nous soyons enfants de Dieu. Et comme dit l'apôtre Jean, nous le sommes. Notre Père. Deuxième point, il dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Jésus nous invite au début de la prière à nous centrer sur Dieu. C'est marrant parce que ce n'est pas forcément spontanément ce qu'on fait. Peut-être vous, mais moi souvent j'ai plutôt tendance à dire, oh là là, j'ai un problème, au secours, je te prie pour ça, pour ça, pour ça, ou pour tel frère, ou pour telle situation. Relax. Dieu connaît d'avance nos besoins. Jésus nous propose plutôt de nous centrer sur Dieu. Que le nom de Dieu soit sanctifié, que son règne soit manifesté, que sa volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. En gros, qu'est-ce que Jésus nous dit? Que le nom, le règne et la volonté de Dieu obtiennent sur terre ce qui leur revient. Oui, que le nom de Dieu soit reconnu comme celui du Dieu saint, du Dieu véritable. Que sa volonté soit parfaitement accomplie. Que son royaume s'étende, se réalise, se manifeste. Voici ce qui devrait inspirer notre prière. Voici ce qui devrait conduire notre prière. Voici ce qui devrait être notre première préoccupation dans la prière. Centrée sur Dieu, que Dieu obtienne ce qui lui revient. Que son nom, son règne, sa volonté soient reconnus sur la terre entière. Je pense que Jésus, donc, à travers cette prière, nous invite à nous projeter aussi dans l'avenir lointain, le jour fixé par Dieu, lointain ou proche, puisqu'on ne le sait pas, à nous projeter au jour où effectivement le nom de Dieu sera confessé. La volonté de Dieu ne sera plus contestée. Le règne de Dieu, son royaume, sera manifesté. Et c'est une manière pour le chrétien de se dire, j'attends ce jour-là, j'appelle ce jour-là, je souhaite ce jour-là, je me projette dans ce jour-là. Recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et tout vous sera donné par-dessus. Notre principale et première préoccupation devrait être le règne de Dieu, que son nom soit reconnu et que sa volonté soit faite. Jésus n'oublie pas pour autant nos besoins vitaux. Ce n'est pas une prière de quelqu'un d'illuminé qui est trop au-dessus des réalités terrestres. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le règne de Dieu. Peu importe si je meurs de faim, peu importe. Il pourrait y avoir aussi là une certaine hypocrisie. Le verset suivant. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos torts ou nos offenses envers toi, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation et surtout délivre-nous du mal ou délivre-nous du diable. trois besoins vitaux pour l'homme, pour le chrétien. Ah oui, j'ai besoin de manger chaque jour, sinon ma vie sur terre va avoir une fin prématurée. Et Jésus nous invite à lui demander notre pain quotidien. Ce n'est pas un pain spirituel. Bien sûr, le pain spirituel est important, mais c'est aussi le pain matériel. C'est à force de courir après ce pain matériel que beaucoup, pour les inquiétudes de ce monde, les soucis de ce monde, se détournent de Dieu. Dieu peut nous donner notre pain quotidien. Demandons-le lui. Autre besoin vital, notre besoin de pardon. C'est marrant parce que Jésus insiste encore sur le pardon. Verset 16. En effet, si vous pardonnez aux autres leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera. Mais attention, si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Jésus sait bien combien le pardon est difficile pour nous. Qu'est-ce que c'est difficile de pardonner? Le pardon est si difficile. Et pourtant, le pardon est vital. Et personne de mieux qu'un disciple de Christ ne peut savoir combien le pardon est vital. Pourquoi? Parce que si Jésus est mort à la croix de Golgotha, c'est pour que nos péchés soient. Si tu as compris ça, alors tu sais ce que c'est que le prix du pardon que Dieu t'accorde. L'as-tu bien compris? Si tu l'as bien compris, alors à coup sûr, tu pardonneras aussi à ceux qui t'ont fait des torts. Si tu l'as bien compris, à coup sûr, tu pardonneras à ceux qui t'ont fait des torts. Vous voyez, la parole de Dieu a cela de difficile, de compliqué. On s'est dit, oui, c'est pas facile, mais le pasteur Sylvain l'a dit tout à l'heure, la vie avec Dieu, ça doit être facile. Mais si tu veux pas, si le péché en toi résiste, c'est ça qui crée les difficultés. Nous maintenons des joues, des liens, des fardeaux, en ne pardonnant pas aux autres. On se ferme, on se crispe. Et ça fait du mal à qui? À qui ça fait du mal? Si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas à vous. Donc si je ne pardonne pas, à qui je fais du mal?
À Dieu.
Je me fais du mal à moi-même. Je me fais du mal à moi-même grandement. Je me fais du mal à moi-même. Pourquoi? Parce que j'aspire au pardon de Dieu. Je le désire, je le veux, je le reçois. Et je ne le donne pas. Donc en quelque sorte, je le méprise. Voyez un peu la logique de Jésus. Si tu ne donnes pas ton pardon, c'est que tu n'as pas compris combien c'est important. Donc en fait, tu ne l'as pas reçu en réalité. C'est pour ça que quand on lit ce verset, frères et sœurs, il faut bien comprendre. Hein? Ce n'est pas tant que le pardon de Dieu est conditionné par notre pardon. Ah, mais Dieu veut bien nous pardonner, mais puisqu'on ne pardonne pas, eh bien dans ce cas, il ne nous pardonne pas. Il y a un petit risque. Le pardon de Dieu est donné. Mais encore faut-il le recevoir, le prendre. Un cadeau, ça s'accepte. Mais si j'ai bien accepté le cadeau, si j'ai bien compris le prix du cadeau que j'ai reçu, alors logiquement, je dois pardonner en retour. Si je ne pardonne pas, c'est que quelque part, je n'ai pas bien pesé combien c'est précieux le pardon que Dieu m'accorde. Ce n'est pas facile. Je ne suis pas en train de dire que par un coup de baguette magique, on va pardonner à tous ceux qui nous offensent. Mais justement, Jésus, là, nous invite à prier pour ça. Il ne faut pas qu'on soit confortable avec des situations de rancune. Oui, je n'ai pas pardonné, mais je m'en fous, je vis ma vie chrétienne. Le chrétien ne doit pas faire comme ça. Je veux pardonner, je désire pardonner, je souhaite pardonner, mais je n'arrive pas. Je demande à Dieu de m'aider à pardonner. Le pardon, selon cette prière, est quelque chose de vital pour le chrétien. Troisième et dernier besoin vital, la délivrance de Dieu dans les épreuves. La vie de tous les jours est faite d'épreuves. Faut pas s'imaginer que l'épreuve, c'est uniquement les temps de difficulté. Même les temps de bénédiction suprême absolue sont des épreuves aussi, sont des tests de la vie. Quand tout marche bien pour moi, et bien finalement ce que Dieu me donne peut devenir pour moi une idole. J'oublie celui qui m'a donné pour m'attacher à ce qu'il m'a donné. Et quand rien ne va pour moi, oh, c'est aussi des périodes difficiles où je peux risquer de penser que Dieu, finalement, il est absent de ma vie. La vie quotidienne du chrétien, comme manger chaque jour, notre vie est faite d'épreuves. Aussi, Jésus nous dit, ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, délivre-nous du diable. Comment je comprends cette phrase? Notre désir absolu, c'est de ne jamais abandonner notre Seigneur. Pour autant, nous savons que notre quotidien est fait de tentations. Aussi vraiment, Seigneur, éloigne de mon chemin toutes les épreuves, toutes les tentations qui pourraient me faire chuter. Délivre-moi de la main de l'ennemi qui, lui, dans mes épreuves de chaque jour, cherche à me faire tomber. Les épreuves de la vie du chrétien mettent le chrétien entre deux personnes. Dieu, qui par ses épreuves veut nous faire progresser, et le diable, qui à travers ses épreuves veut nous faire trébucher. Aussi, cette phrase dans la prière nous dit, délivre-nous du diable, délivre-nous du mal, et protège-nous de la tentation, afin que jamais je ne trébuche et que je demeure attaché à toi. Le pain quotidien, le pardon, la victoire dans les épreuves. Je me demande si c'est vraiment trois sujets pour lesquels nous prions si souvent. Jésus nous rappelle que c'est des besoins vitaux. Il est bien de demander à Dieu de répondre à nos besoins divers. Ce n'est pas mauvais en soi, mais attention à ne pas blablater, à ne pas en faire le centre de notre prière. Pourquoi? Parce que Dieu connaît nos besoins d'avance. Et si nous sommes ses enfants, s'il est notre Père, à coup sûr, il veille sur nous, il prend soin de nous. Gardons nos yeux centrés sur lui, sur notre relation avec lui, sur notre intimité avec lui. Telle est la vie chrétienne, telle est la marche chrétienne, telle est la priorité du chrétien. En conclusion, Jésus nous met en garde contre l'hypocrisie religieuse. Jésus nous invite à nourrir avec notre Père Céleste une intimité forte. Est-ce que je reçois le message du Christ aujourd'hui dans ce qu'on n'a lu. Est-ce que ce qu'on a dit aujourd'hui corrige ma manière de prier, corrige ma manière de jeûner, si je le fais, corrige ma manière de donner aux pauvres? Est-ce que ce qu'on a dit aujourd'hui corrige mes priorités? Le royaume de Dieu, le royaume des cieux, est-il pour moi mon but suprême? Telle est la question que nous pose ce texte. Ne le faites pas pour être vu par les hommes, mais faites-le pour votre Père qui voit toutes choses en secret et qui le rendra. La présence de Dieu, l'amour de Dieu, sa fidélité intime doit être ce qui nous rassasie pleinement. On a chanté le chant, je crois, « Te connaître ». Te connaître. Connaître quelqu'un, avoir une relation avec lui, le connaître vraiment, Il n'y a pour moi rien de meilleur, rien ne m'est plus cher. Est-ce vraiment la pensée de mon cœur? Si tel est le cas, alors Christ fera briller lui-même sa lumière en nous et cette lumière se verra autour de nous. Je vais prier. Oui Seigneur, tu nous reprends encore à travers ce sermon sur la montagne. Tu nous donnes de discerner comment mettre en pratique notre foi, notre justice, et de quelle manière le faire pour que cela te soit agréable. Oh Seigneur, vraiment tu sais combien nous sommes retors, combien nous sommes résistants. Oh Seigneur, nous voulons te prier pour que tu nous aides encore et toujours, chaque jour, à faire toutes choses d'une manière qui te glorifie, d'une manière qui te place à la première place, d'une manière qui te donne la priorité. Je veux simplement ce matin encore, Seigneur, nous remettre en tes mains. Parce que, Seigneur, tout seul, oh Seigneur, nous sommes perdus à jamais, nous n'arriverons pas. Mais avec toi, nous savons que nous avons un Père fidèle, un Père tout-puissant, un Père qui prend soin de nous et veille sur nous. Un Père qui nous attire, même des fois quand nous résistons, qui nous tire par la main et qui nous invite dans ce lieu secret. Afin, Seigneur, que, oh Seigneur, toute chose que nous pensons, disons ou faisons, que tout cela soit fait pour toi, par toi et avec toi. Nous te prions dans le nom de Jésus. Amen.